Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Nana Chaudu, originaire de la République démocratique du Congo, fondatrice de l'ONG Bomoi. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à toi, Nathalie.
Alors, à l'âge de 7 ans, vous êtes allée vivre avec votre famille en Belgique. Vous avez débuté votre carrière au Parlement belge avant d'avoir été recrutée par l'OCDE à Paris en 2002. Vous avez été coordonnatrice de projet de la division investissement en collaboration avec la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, l'UNESCO, le NEPAD et l'Union africaine. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Vous vous consacrez depuis 6 ans à l'ONG Bomoi, active dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Bobigny en France, qui agit en faveur du lien social et de l'éducation. Alors Bomoi œuvre aussi dans les domaines de la santé, l'éducation et la fracture numérique en Afrique. Vous œuvrez pour l'aide aux femmes victimes des maternités prison, c'est ce dont nous allons parler notamment en République démocratique du Congo. Phénomène qui consiste à retenir prisonnières des mères avec leur nouveau-né jusqu'au paiement complet des frais d'hospitalisation. Et je suis certaine qu'à l'heure où nous parlons, des gens sont surpris de savoir effectivement que cela même existe. Vous œuvrez aussi pour la scolarisation des enfants de la rue et orphelins à Kinshasa, appelé Chégué, et la réduction de la fracture numérique. Alors, parlez-nous de cette chose absolument extraordinaire, les maternités-prisons en République démocratique du Congo.
Donc, le phénomène des maternités-prisons consiste en fait à retenir prisonnières les mamans et leurs nouveau-nés dans les maternités jusqu'à total paiement des frais d'accouchement qui leur sont réclamés. Alors, il faut savoir que, donc, de fait, l'accouchement n'est pas du tout inscrit dans l'ordre de la gratuité en République démocratique du Congo, aussi bien dans les hôpitaux publics que privés. Donc ces femmes sont tenues en fait de totalement se prendre en charge. Alors celles qui malheureusement passent par des césariennes se voient donc facturer une facture encore plus élevée que les femmes qui auraient accouché de manière, on va dire, normale. Dans les hôpitaux, il faut savoir également que les hôpitaux ne donnent pas du tout, ne fournissent pas du tout de nourriture aux femmes et aux enfants. C'est à elles en fait de se fournir en alimentation de par leurs amis, de par leur famille. L'hôpital ne donne pas du tout de nourriture ni aux nouveau-nés ni à la maman.
Et elles doivent payer la nuit d'hôpital aussi ? Parce oui. qu'on comptabilise, j'imagine, le nombre de nuits passées.
La facture augmente au fur et à mesure que ces femmes restent dans ces hôpitaux. Donc, elles commencent au jour de l'accouchement jusqu'au jour où elles parviennent totalement à payer ce qui leur est demandé.
Comment peuvent-elles parvenir à payer quoi que ce soit à partir du moment où elles sont retenues prisonnières quelque part, donc même dans l'impossibilité de travailler, qui plus est avec des nourrissons?
Exactement. L'hôpital se moque totalement des moyens qu'elles pourraient mettre en œuvre pour pouvoir rassembler la somme qui leur est demandée, à elles de faire appel à la famille, à des amis, de quelque manière que ce soit. Mais l'hôpital s'attend simplement à ce qu'elles s'acquittent de ces factures.
Ça veut dire que plusieurs femmes se retrouvent dans une situation où personne de l'entourage ne va payer pour elle, y compris le compagnon, le mari ou autre.
Ben, il faut savoir déjà que la vie est assez chère en RDC. La vie est assez chère, la population s'appauvrit de plus en plus. Le taux de chômage est élevé à un niveau juste incommensurable. Nous avons eu un nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi. Mais le pays était dans une période, et il l'est toujours actuellement, de dysfonctionnement qui fait que au niveau de la structure sociale, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, on vit et on continue à vivre un dysfonctionnement comme ne connaît aucun autre pays d'Afrique.
C'est dans la presse.
Le premier prix Simone Veil en France a été attribué à Aïssa Doumara Ngatansou lors de la 42e journée internationale des droits des femmes qui gère une association d'aide aux victimes de violences basées sur le genre dans son pays, le Cameroun. Je viens d'une contrée où le non-respect des droits des femmes ou sa méconnaissance amène les femmes à vivre des discriminations, des viols, des mariages forcés ou encore l'utilisation des femmes comme bombes humaines, a déclaré Madame Ngatansou lors de la 42e journée internationale des droits des femmes. Elle a dédié ce prix à toutes les femmes victimes de violences et toutes les rescapées des djihadistes. Une vidéo postée le 4 mars par la chanteuse sud-africaine Babes Wodumo montrant la jeune femme frappée par un homme a provoqué une onde de choc en Afrique du Sud. Nous appelons tous les Sud-Africains à mettre un terme aux violences basées sur le genre avec le même zèle que nous avons combattu le racisme, a déclaré le ministre de la Culture Nathi Mtetwa, affirmant que l'auteur des coups était le musicien Mampicha, compagnon de la chanteuse. Sur Twitter, le gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas d'excuses pour les violences. Et on rappelle que fin 2018, le président Cyril Ramaphosa avait déclaré qu'il fallait en finir avec les viols et les fémicides qui ne font jamais l'objet de poursuites. Alors, ces prisons maternité, vous êtes retrouvés dans des situations pour pouvoir libérer ces mamans avec leurs nourrissons. Vous, votre association, vous avez payé à plusieurs reprises, vous avez fait libérer à Kinshasa plusieurs groupes de femmes avec leurs nourrissons.
Effectivement. Pour ce faire, nous nous sommes rendus, donc à plusieurs reprises, je me rends en République démocratique du Congo, où l'ONG est également reconnue selon la législation locale. Et avec l'équipe de Bumuyi en RDC, nous effectuons des opérations de libération de ces femmes dans les maternités. Nous nous rendons dans ces maternités, nous négocions, parce que c'est vraiment le terme approprié, nous négocions autour de leurs factures, afin de voir dans quelle mesure est-ce que les hôpitaux peuvent accepter de réduire celles-ci, et afin que nous puissions en libérer le plus possible. Donc oui, effectivement, ces opérations ont eu lieu et puis nous avons eu d'ailleurs pas mal d'images pour immortaliser ces moments-là, ou ces moments de joie en fin de compte, où ces femmes se retrouvent dehors avec leur bébé ou peuvent en fin de compte réintégrer leur famille.
Vous avez parlé tout à l'heure du nouveau président. Est-ce que vous avez espoir justement qu'il puisse mettre un terme à ce procédé de maternité-prison en RDC ?
Avant de répondre à cette question, Nathalie, je vais d'abord faire appel à la Première Dame. La Première Dame a pour vocation, en fait, d'agir dans le social, d'améliorer le cadre de vie des habitants et de s'impliquer dans toutes les questions sociales qui sont liées à l'amélioration de la condition de la femme, à l'accès à l'éducation pour tous, pour tous les enfants de tout âge, mais aussi à l'accès à l'éducation pour la femme. Donc j'en appelle à la Première Dame, effectivement, afin qu'elle se saisisse de cette problématique de maternité, de couverture médicale autour de la femme en période de grossesse, mais également qu'elle permette à la femme d'avoir accès à l'éducation, qu'elle permette à la femme, en fait, d'avoir accès à des postes à responsabilité. Et de par là, notre président pourrait également s'en saisir pour réagir par rapport à cela.
Mais ce problème des maternités prison, est-ce que vous vous êtes renseigné à savoir si même au regard de la loi, c'était légal de retenir des femmes comme ça dans une maternité ?
Il est vrai que je pêche de par cette action, Nathalie, parce que je me dis, ce phénomène de maternité prison n'est pas seulement pratiqué dans les hôpitaux privés, il a lieu dans les hôpitaux publics. Donc c'est vrai que je n'ai pas été voir au niveau de la Constitution, je le reconnais, je pêche de par là. Mais s'il est appliqué dans les hôpitaux publics, je me dis que de fait, peut-être que la loi leur autorise.
Ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner.
Effectivement, je le ferai.
Parole de femme.
Certaines féministes se penchent sur la question de la solidarité féminine, comme notamment au Togo, où le mouvement Forza Sistas vise à renforcer cette notion essentielle à l'aboutissement des droits de la femme. Pour en parler, voici un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayilosson, qui a donné la parole à la blogueuse Mikafui Akwe, ayant initié ce challenge. On écoute ce reportage, je le trouve vraiment excellent, très intéressant.
Forza Sistas, c'est un challenge où il s'agissait en fait pour les femmes de présenter trois autres femmes, présenter leurs actions dans l'entrepreneuriat, dans la défense des droits humains, etc. Et de dire pourquoi est-ce que ces femmes nous inspiraient ou pourquoi est-ce qu'on les admirait. Ensuite, vous devez encore choisir trois autres femmes pour qu'elles fassent le même exercice. Alors, j'ai nominé Judith Baliboa, qui est une conseillère en images.
Judith Baliboa Larré parle de l'impact de ces challenges sur sa vie professionnelle.
Lorsque j'ai fini par me connecter, j'ai vu le truc et puis je voyais que ça parlait des femmes qui faisaient des choses vraiment très très intéressantes. Et je suis tombée aussi sur des personnes qui ont parlé de moi et vraiment c'était très impressionnant. Ça donnait même la chair de poule. C'est un peu comme si on apprenait à se connaître soi-même. J'avoue que ça a porté un coup sur ma profession. Et ça m'a un peu mise en avance aussi parce que beaucoup de personnes m'ont connue à travers ces posts.
Les femmes togolaises sont appelées à renforcer la solidarité afin de mettre fin à la rivalité au sein de la gente féminine. Fallon Alognon, une sista.
Déjà, voir une amie écrit sur soi, c'est motivant dans le sens où on ne veut pas décevoir cette personne. On veut pouvoir continuer à être cette personne que l'autre voit et surtout être solidaire. Et ce qui est formidable, c'est cette nouvelle génération qu'on est, qui croit en l'autre, qui veut voir l'autre réussir, qui veut être avec l'autre.
Cet engagement des femmes à se soutenir doit aussi inspirer les hommes, pense Didier Kissaudet, qui se définit comme un ambassadeur du genre.
Fossa Sista a apporté un changement de mentalité à l'endroit du genre féminin et aussi du genre masculin. Un exemple vraiment palpable de le faire également entre nous, les hommes, puisque il y a un sérieux problème d'ego masculin qui s'oppose dans le soutien qu'on peut faire à un autre homme. Et je pense qu'avec cette solidarité, il y a une force unie qui est créée.
La communauté des Sistas est composée aujourd'hui d'une cinquantaine de jeunes dames qui se serrent les coudes pour pouvoir impacter leur génération.
Forza Sistas a permis aussi de voir que la solidarité, en réalité, elle est possible si on se donne les moyens pour.
On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir d'impact en rang dispersé. Ensemble, on va y arriver.
Forza Sistas, c'est vital pour nous, en fait. Nous, femmes, nous devons nous entraider.
Donc, Forza Sistas, pour dire force à nos sœurs.
Force à vous, les sœurs. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Nana Chaudou. On revient sur ce problème des maternités prisons en RDC. Et vous avez vous-même l'objectif de financement pour l'implantation d'une maternité pilote où les femmes ne seraient plus retenues faute de moyens et où elles accoucheraient en toute dignité. Ça, c'est vous qui le dites dans votre programme, en étant prise en charge aussi pendant la période de grossesse. C'est-à-dire qu'en RDC, à l'heure actuelle, on doit payer encore tout ça.
Exactement, il n'y a pas de prise en charge. Vous savez que la période de grossesse est une période à risque pour la femme en état de grossesse. Et parmi les objectifs de développement durable qui ont été édictés, il est question de réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Mais comment pouvons-nous atteindre ces objectifs si on ne met pas en place les outils pour, si on ne met pas en place des procédures, je veux dire des moyens pour y arriver. Et parmi ces moyens de réduction de la mortalité maternelle et infantile, il est très très important de mettre en place cette prise en charge.
Et quand vous dites où elles accoucheraient en toute dignité, est-ce que ça veut dire en fait que si l'on est très pauvre, on n'est pas très bien prise en charge, même au niveau de l'accouchement par exemple?
Il y a des femmes qui arrivent sur le point d'accoucher et qui ne sont pas prises en charge parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer. Donc il y en a qui accouchent par terre, il y en a qui ne sont même pas considérées.
Voilà, par terre.
Par terre, exactement, par terre. Ou alors il y en a qui sont retenues prisonnières dans les maternités et n'ayant pas payé pendant X temps, lorsqu'il y a d'autres femmes qui arrivent nouvellement dans ces hôpitaux, elles doivent céder le lit et dormir par terre, à même le sol, sur un pagne, et céder le lit et que le lit soit partagé par deux femmes. Donc nous, effectivement, nous avons eu ce projet à cœur de mettre en place l'implantation d'une maternité. Et dans le cadre de cette implantation-là, effectivement, nous lançons des appels à toutes les femmes au monde afin qu'ensemble, on puisse y arriver, qu'on puisse réunir les moyens qu'il faut pour
seulement
l'implantation.
Aux femmes, faites l'appel aux femmes pour les
et aux hommes également. Oui, je fais appel aux hommes également. Je fais appel aux sportifs.
Parce que on parle des papas, là, des papas, des futurs nourrissons.
Exactement, exactement. Mmh. Et je sais que parmi les nations, il y a aussi bien des hommes qui ont réussi que des femmes qui ont les moyens de soutenir soutenir cette initiative que nous lançons afin de pouvoir récolter les fonds nécessaires à la mise en place de cette maternité pilote. Je sais qu'ensemble, on peut y arriver.
Parole de femme.
Dans de nombreuses nations du monde, les femmes ont célébré le 8 mars 2019 dans un esprit de combat visant à faire respecter leurs droits, comme en Centrafrique où elles ont réclamé leur participation effective dans les instances de prise de décision, surtout en ce qui concerne la consolidation de la paix. Et sur cette question, voici un reportage de Freeman Sipila à Bangui.
Pour un pays comme la République centrafricaine qui sort encore d'une crise complexe et destructrice, les femmes ne veulent pas rester en marge des processus de prise de décision. Elles ont organisé plusieurs débats à travers le pays sur le rôle de la femme dans la reconquête de la paix et le relèvement. Pour la première dame Brigitte Ouadéra, les femmes doivent innover pour participer au développement.
La femme doit penser autrement pour des actions de changement là où elle se trouve. La Journée internationale de la femme est également une occasion non seulement de célébrer la femme dans toutes ses dimensions sociales, économiques et politiques, mais aussi de réfléchir sur tous les enjeux et les problèmes que les femmes rencontrent dans la vie quotidienne.
Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement, ce thème était au centre d'une réflexion organisée à Bangui par la Fondation Mamandoyo pour le développement. Virginie Guinaoui Napalien, membre de cette structure.
La femme, c'est le pilier. Il faut que la femme se lève. Il est temps pour la femme pour se battre. Si nous nous battons bien, ce pays va se relever. Et je demande à toutes les femmes, y compris nos enfants, nos filles, de se battre dans la vie. Et il faut que les femmes aident les filles à aller à l'école. Même les femmes qui ne sont pas alphabétisées, il est temps pour elles d'aller à l'école. Elles peuvent aller à l'école s'instruire.
Innovation, participation au développement, tout cela doit passer par le respect des droits des femmes. C'est ce que l'Association des femmes juristes a enseigné ce vendredi à quelques femmes. Karine Fornel-Poutou est sa présidente.
C'est d'attirer l'attention de la communauté internationale et nationale et surtout les femmes sur leurs conditions. Surtout en ce qui concerne la participation de la femme dans les instances de prise de décision, son autonomisation économique et aussi sa participation en ce qui concerne la paix.
Pour mieux participer au relèvement et à la consolidation de la paix en Centrafrique, les femmes réclament plus de participation au sein des instances dirigeantes. Monique Nali, coordonnatrice du mouvement des survivantes de Centrafrique.
C'est pour éveiller les femmes à faire le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale, auprès de nos grandes institutions pour l'inclusion totale de toutes les survivantes des conflits armés dans notre pays, dans la mise en œuvre de la consolidation de la paix et du relèvement national.
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
On revient vers notre invitée, Nana Chaudu, présidente de l'ONG Bomoi, qui vise à enrayer le phénomène des maternités-prisons en République démocratique du Congo. Vous avez parlé de réduire la mortalité maternelle et infantile à travers un meilleur suivi de santé. Pour cela, il faut avoir des entrées dans le monde médical, j'imagine. Quel genre d'entrée vous avez pour faire accélérer ce processus-là ?
Eh bien, de par là, en fait, ce que nous voulions faire, c'est un effet électrochoc, en fait. De par cette maternité pilote que nous souhaitons implanter, la main-d'œuvre ne manque pas. Les personnes chargées de bagages intellectuels nécessaires sont là. Les médecins, il y en a en République démocratique du Congo. Malheureusement, le système ne permet pas à ces médecins d'être rémunérés correctement, notamment dans les hôpitaux publics.
Donc là, c'est le ministère de la Santé auquel vous adressez, entre autres.
J'en appelle également au ministère de la Santé parce que je sais qu'ensemble, on peut travailler à éradiquer ce problème.
Vous avez déjà travaillé avec eux ou pas du tout ?
Avec le ministère de la Santé, bien sûr, nous avons déjà contacté également.
C'est positif.
C'est positif, on attend.
De femmes.
Malgré la pluralité et le plein essor des entreprises de presse privée en Guinée, les femmes sont très peu sollicitées à des postes hiérarchiques et souvent réduites à des stéréotypes ou victimes de machisme, rapporte notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, qui a voulu savoir quelle place occupent les Guinéennes dans les médias.
Pour célébrer la femme en ce 8 mars, plusieurs radios et chaînes de télévision de la capitale ont aménagé des espaces pour des émissions spéciales réservées aux femmes. D'autres ont laissé l'antenne à des voix féminines. Dans la plupart des salles de rédaction, les hommes étaient peu nombreux. Arissa Tou, secrétaire de rédaction, et Balarissa, journaliste à la radio Espace Guinée, se prononce sur ce programme spécial.
Le rôle des femmes ne doit pas être différent de celui des hommes. Donc, quand on est dans une rédaction, il faut essayer de faire des choses qui sont intéressantes, ne pas rester seulement dans des émissions où on fait l'animation, où on s'amuse et tout. Il faut oser aller vers la rédaction politique.
Pour la journée d'aujourd'hui, ce sont nous-mêmes femmes qui nous sommes imposées de faire certaines tâches. Aujourd'hui, le journal des sports, aujourd'hui, c'est une femme. Elle a décidé, la direction n'a pas choisi si ça devrait être une femme ou pas. Elles se sont levées d'elles-mêmes et on dit qu'elles pourront le faire. Et voilà pourquoi cette journée, vous avez remarqué, plus de femmes.
Mafoudia Bangoura, l'une des deux femmes au milieu de cinq animateurs des grandes gueules, l'émission la plus écoutée à partir de 9h.
Le nombre de femmes scolarisées, et plus ça évolue, plus ça diminue. Si vous voyez que pour les hommes, ça augmente, avant l'université, il y a peu de femmes qui arrivent à l'université. Donc comment espérer que celles-ci se retrouvent au poste de prise de décision? En plus de cela, il y a des problèmes aussi de confiance en soi. Et tout ça, c'est la société. Mais ce qui est bien, c'est que d'année en année, on est en train de franchir des étapes. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand même, il reste beaucoup, beaucoup à faire. Ça, c'est une réalité.
Pour changer la donne, les associations de défense des femmes misent sur la formation. Adiatou Yaya Sall, membre de l'Association des femmes journalistes de Guinée.
Nous nous basons beaucoup sur la formation. Lorsqu'elles sont bien formées, elles peuvent plus oser de faire certaines choses. Elles vont comprendre le métier et peut-être qu'on pourra avoir des femmes au poste de décision.
Certaines femmes sont victimes du machisme, reconnaît le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Mais pour Sanou Kerfala Cissé, d'autres raisons pourraient expliquer la mauvaise situation des femmes dans les médias.
Il y a certains machos parmi les hommes qui font tout pour ne pas que les femmes avancent. Mais il y a d'autres hommes aussi qui se battent pour l'épanouissement de ces femmes-là. À part ce problème de ménage qui empêche beaucoup de femmes aujourd'hui d'évoluer, je pense qu'elles ont la fougue, elles ont le talent, elles ont la connaissance.
Seulement 3 femmes occupent la direction des entreprises de presse privée sur plus de 70. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Nana Chaudu, je voudrais qu'on parle rapidement de la scolarisation des enfants de la rue à Kinshasa qui sont extrêmement nombreux. Il y a des filles également. Et vous avez un projet de financement là aussi pour une école spéciale pour recevoir tous ces enfants des quartiers défavorisés, on va dire.
Exactement. Cette école a pour ambition d'être basée dans un quartier populaire où la population est assez pauvre et où les enfants n'ont pas accès à l'école du fait du prix qui leur est imposé. Donc l'idée de l'implantation de cette école serait effectivement de donner accès à beaucoup plus d'enfants, les orphelins, les chégués, donc les enfants des rues de Kinshasa, mais aussi les enfants qui sont issus de familles démunies. Ils sont en famille, mais les familles n'ont pas les moyens de payer la scolarisation de ces enfants. Et nous voulons montrer aux écoles qui sont déjà implantées qu'il est possible de donner accès à l'éducation pour tous.
Il y aura la cantine.
Nous espérons également y faire une cantine parce qu'effectivement, ventre vide n'a point d'oreille, comme il est dit. Et actuellement, il est difficile pour un enfant d'être motivé à aller à l'école.
Donc ça sera gratuit, tout ça sera gratuit.
On ne peut pas prôner la gratuité dans le sens où les professeurs doivent également être rémunérés, les professeurs qui vont enseigner dans ces écoles. Mais ce sera simplement une participation symbolique qui fera en sorte que tous les enfants aillent à l'école.
Parce que l'école publique, logiquement, dans la plupart des pays, elle est gratuite. On paye les professeurs à travers les impôts d'une manière générale.
Nous attendons effectivement que le gouvernement fonctionne et que cesse ce dysfonctionnement afin que les professeurs soient payés par un autre canal que l'apport des parents.
Un mot rapidement sur les filles qui, elles, sont dans la rue également.
Effectivement, il est à savoir que la contribution d'une femme dans la société peut augmenter fortement le PIB, donc le produit intérieur brut de ce pays. On doit en fait donner davantage accès aux filles à l'éducation et à l'instruction. Elles sont exposées au viol. Elles sont exposées donc plus que les garçons, parce que voilà, ce sont simplement des filles.
Merci beaucoup, Nana Chaudu.
Merci à toi, Nathalie, de m'avoir invitée à ton émission. Ça fait plaisir.
Arrête.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.